De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucier Dale Parizeau cabinet d'assurance et du magazine Contact Affaires.
Alors, je sais pas si c'est une intervention de la CIA, mais en tout cas, il y a eu un petit délai avant qu'on vienne.
On est surveillé.
Alors, faut faire attention à ce qu'on va dire, donc, parce que malheureusement, je pense pas qu'on puisse dire des choses très positives de ce qui arrive depuis lundi dernier. En fait, depuis la fin de semaine. Il avait dit qu'il prenait la fin de semaine puis qu'il rentrait au bureau seulement que lundi. Mais finalement, il a commencé à faire du dommage très tôt. Donald J. Trump, le 45e président des États-Unis d'Amérique, qui sont de moins en moins, qui portent de moins en moins leur nom, qui sont de plus en plus divisés autour de cette élection qui a mis en poste quelqu'un qui dont même certaines personnes remettent la santé mentale en cause là, dans les décisions qu'il prend. On va recevoir pour en jaser. On en a jasé lorsque la campagne était en marche. On en a rejasé avec lui lorsque le couperet est tombé. Mais je pense que ça vaut la peine qu'on en reparle parce que là, c'est de la façon que ça se développe puis ça se dirige vers... On se demande vers où on s'en va avec ça. Hubert Vallée, bonjour.
Bonjour.
Hubert, comment les États-Unis vont sortir de ce pas-là? Est-ce qu'ils souhaitent s'en sortir, premièrement, puis comment ils peuvent s'en sortir? Parce que là, décret par-dessus décret, il est en train de défaire tout ce qui a été fait dans les administrations précédentes. Il est en train de revenir en arrière dans le cas des femmes, là, de revenir du droit des le droit à l'avortement, le droit en général des femmes. Il prend des reculs, il y a absolument incroyable. Comment on peut penser qu'on va se sortir de ça?
Ça sera très très difficile. Premièrement, il est élu pour au moins 4 ans, donc d'une manière discutable, parce qu'il y a eu beaucoup moins de votes qu'Hillary Clinton, mais indiscutable par le collège électoral, dans les normes. C'est très difficile de destituer un président, et c'est un homme qui est très difficile à contrôler.
Mais il y a une possibilité.
Évidemment, il y a la séparation des pouvoirs. C'est beau signer décret sur décret. Si une incidence économique, ça lui prend l'appui de la Chambre des représentants et du Sénat. Sinon, il est bloqué.
Là, ce qu'il a signé justement comme décret depuis le début de son arrivée, est-ce que ça a force de loi immédiatement ou si ça doit justement traverser les instances?
Non, il faut qu'il y ait consultation avec le Congrès et il y a l'application concrète. Évidemment, le fameux décret sur l'oléoduc, c'était pour contrecarrer le président Obama qui avait mis son veto à une résolution du Congrès. Donc, on peut supposer assez facilement qu'il va avoir l'appui du Congrès pour le faire appliquer. Pour les autres, ça va être beaucoup plus difficile parce que le Congrès est divisé comme la population américaine.
Mais de façon générale, comment on peut qualifier les gestes, les décisions qui ont été prises par M. Trump? Puis, c'est quoi le fil conducteur dans tout ça?
Mais on peut pas dire qu'il surprend les gens. Et il est fidèle à lui-même. D'ailleurs, son discours d'inauguration, qui est assez original d'habitude, ses vocations plus optimistes et autres, c'était finalement une série de slogans qu'il a battu et rebattu dans sa campagne électorale. Donc, tout le monde le connaît comme impulsif, têtu, arrogant. C'est pas une surprise. Qui fonce comme un métamore. Évidemment, ça surprend personne. Évidemment, il pourra pas faire ça longtemps. Il y a, évidemment, la théorie, puis il y a la pratique. L'application, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais si, les décrets sont déposés, si le Congrès lui refuse certaines de ses politiques, est-ce que le fameux droit de veto, est-ce qu'il peut, en ce moment-là, l'utiliser pour défaire ce qui aurait été refusé par les autres instances?
Ça se peut en théorie, mais ça serait un barrage. Normalement, un président ne peut pas éternellement fonctionner s'il n'y a pas l'appui du Congrès. Il est largement paralysé. Et pour la politique étrangère, il faut que ces décisions soient entérinées par les 2/3 des sénateurs à la suite d'une représentation de la majorité de la Chambre des représentants.
Donc, il ne peut pas prendre des orientations au niveau des politiques étrangères qui vont avoir des conséquences sur, justement, les relations entre les pays concernés, les États-Unis.
Il faut qu'il y ait l'appui des 2/3 des sénateurs. Ce qui est pas facile.
Comme là, il a affirmé que le fameux mur va se construire. Et que, oui, il va être payé par le Mexique. Mais les Mexicains ont, depuis la campagne, dit qu'il n'y en était pas question. Alors qu'il va se retrouver avec des dépenses phénoménales. qui vont juste gonfler son déficit et comment il va justifier ça à sa population?
C'est une fixation, c'est pas pourquoi, manifestement, il y a une très grande animosité, non pas contre la Russie, mais contre la Chine et contre le Mexique. Le Mexique n'est pas une république de bananes, c'est quand même un pays de 5, 116 millions d'habitants, que ça fait une longue histoire, et ensuite, évidemment, qu'il y a du pétrole également. Donc, ce qu'on ignore maintenant, c'est que les travailleurs mexicains, beaucoup quittent les États-Unis, faute d'emploi, faute leur assesse et autres, pour retourner chez eux. La menace, à ses yeux, devrait venir beaucoup plus des gens de l'Amérique centrale que du Mexique. Il y a enfin une fixation. Déjà, la frontière est très surveillée. On demande à quoi servira un double mur en plus.
Ouais. Il y a un aspect économique aussi qui est en jeu, parce que de renoncer ou de revisiter l'ALENA, c'est aussi des millions d'emplois qui sont en cause, qui risquent de disparaître.
Ça se fait pas là également du jour au lendemain. C'est très beau dans le principe, sur quelques théories très discutables. Parce que si vous refusez des produits fabriqués, par exemple, dans le tiers-monde et autres, et ils seront fabriqués aux États-Unis, mais 3-4 fois plus chers, ça va entraîner une inflation et une mini-crise économique aux États-Unis. Ouais. Il y a toujours un revers de la médaille. Et ensuite, ces négociations internationales, ça prend des années à se conclure par une équipe de spécialistes. Tout est débattu, argoté et autres, et les Américains n'auraient pas accepté des traités comptés à leurs intérêts.
Si on regarde justement les conséquences de la remise en question des traités de libre-échange pour le Canada, ça peut avoir quelles conséquences? Qu'est-ce qu'on devrait avoir en tête en pensant que M. Trump va remettre tout en cause?
Premièrement, ça se fera pas du jour au lendemain, si ça se fait. Puis ensuite, évidemment, on fournit beaucoup plus de matières premières aux États-Unis que d'autres produits. C'est certain que le bois d'œuvre, pétrole et autres vont être touchés. Mais ça va être surtout les industries primaires.
Le Québec, entre autres, fournit de l'électricité à également, une bonne partie du nord des États-Unis.
Mais ça, ils peuvent pas s'en passer. L'été, les Américains ont énormément besoin d'électricité parce qu'à cause de tous les appareils de climatisation, donc c'est une nécessité.
Quel est le danger réel de l'affrontement qu'il peut y avoir, justement, vous en avez parlé, la Chine, ça fait partie de ses fixations. Les Chinois, ils ont peut-être la mèche courte, ils ont inventé les feux d'artifice, mais ils peuvent avoir la mèche courte, ils toléreront pas ça longtemps, ces affronts-là?
Non, c'est certain, les Chinois sont un peuple fier, c'est quand même un des peuples fondateurs de l'humanité, c'est le pays le plus peuplé au monde. Il y a quand même un développement économique, même si ça a été au ralenti les dernières années, qui n'est pas négligeable, et ils ont une armée qui est très forte et qui est de plus en plus influente en Asie. Et il faut voir également le nombre de colonies chinoises dans la plupart des pays d'Asie et même dans les Amériques. Donc c'est un géant qu'on peut pas tasser d'un revers de la main.
Oui, on trouve que les initiatives de M. Trump depuis une semaine sont discutables. Mais si on regarde les indices boursiers, c'est peut-être tout le contraire. Les indices boursiers sont en hausse. On semble bien accueillir les changements que propose Donald Trump. Comment on peut expliquer ça?
C'est un effet de manche. Un effet de manche, de l'huile sur le feu, ça peut durer un temps, mais à long terme, évidemment, ça ne peut pas durer. Il y a la réalité économique qui vont rentrer en ligne de compte.
Parce que les gens d'affaires sont pas dupes quand même. Ils voient ça. OK, ça a donné un coup parce qu'on a parlé de tout ça,
oui.
Mais ça a des incidences économiques qui peuvent être très graves. On parlait de l'inflation, on parle bien sûr du déficit qui peut grimper et atteindre des niveaux qui ont jamais été atteints. Alors ces gens-là sont pas dupes quand même. Est-ce qu'ils vont continuer? Qu'est-ce que ça va prendre pour que les gens qui l'ont appuyé se rendent compte qu'ils ont fait erreur et qu'ils s'en vont dans un gouffre, là, finalement?
Il va falloir que quelqu'un lui dise ensuite qu'il soit beaucoup plus entouré.
Ouais. Non, mais la population semble, une partie de la population, parce que comme je disais, ils sont très divisés. Là. Il y a comme le nord, l'ouest et le centre qui sont opposés finalement, les uns aux autres. Il y avait les fameux, dans le cas des migrants, là, il y a les fameux États dits sanctuaires qui auraient des sanctions si ils, comme la Californie l'avait largement diffusé, ça prêtait à être justement de pas tenir compte des politiques discriminatoires que le fédéral pouvait amener. On va maintenir, nous, les droits qu'on a déjà acquis pour notre population, et on va se foutre de ça. Mais là, il dit non, je vais vous couper les vivres si vous faites pas ça. Alors, comment la population peut continuer de recevoir ça et pas réagir?
Il demande qu'il va falloir tôt ou tard que les gens réagissent plus et que l'opinion publique oblige Trump finalement à prendre la réalité du poste de président. Être candidat, dire n'importe quoi, c'est une chose, mais être président, il faut être beaucoup plus pondéré, beaucoup plus connaître les dossiers, accepter beaucoup plus de conseils. Et évidemment, avant d'agir, être beaucoup plus réfléchi. Est-ce que c'est possible? Il peut pas faire uniquement de la communication à coup de tweet et à coup de conférence de presse sommaire.
Est-ce que ça peut arriver, ça, qu'il se rende compte de ça?
Tôt ou tard, s'il s'aperçoit que les résultats sont pas là, qu'il est en train de perdre la face, il risque de réagir.
Parce que de plus en plus d'observateurs qui doutent de sa santé mentale, là,
Chose certaine, c'est un homme qui s'aime beaucoup, manifestement, narcisse très fort, c'est son point faible. Si on l'attaque, il a tendance à riposter et férocement.
Ouais. Bon, mais il y a aussi sa vie qui risque d'être en danger aussi. Il peut y avoir des radicaux qui peuvent l'avoir comme cible.
Oui, mais il est très protégé. On ne verra plus, par exemple, un président défiler dans une ville, le toit ouvert.
Comme John Kennedy l'avait fait.
Devant des milliers de fenêtres. On a vu à son inauguration, il fallait qu'il sorte de la limousine pour un petit 5 minutes pour les photographes, les films d'archives. Mais on a vu le nombre de gardes du corps à côté. Je dis pas que c'est impossible. Ça va prendre une personne qui est prêt à suicider, genre ceinture explosive, mais ça va être extrêmement difficile. Il s'exposera pas, évidemment, aveuglément.
Vous faites référence un petit peu, tous les deux, à John F. Kennedy, mais justement, il y avait eu à ce moment-là une espèce de désaveu des services secrets et avec toute la question de la baie des cochons, etc. Là, puis ça a été longtemps, il y a eu longtemps la théorie du complot de l'interne visant à se débarrasser du président. Ça risque peut-être d'arriver encore.
Oui, ça c'est une mentalité américaine de voir beaucoup de complots alors que des réalités qui sont souvent plus simples. Évidemment, ça fait vendre énormément de livres. Je vous rappelle que sur l'assassinat de Kennedy, il y a eu 800 livres qui ont été écrits, des films, des reportages et autres, en long, en large. On peut toujours partir d'une théorie et broder.
Ben Hubert, je suis content de voir que vous êtes presque positif, optimiste dans ça, qu'on va s'en sortir.
Chose certaine, il ne peut pas continuer ainsi. Il va falloir qu'il se tempère et ensuite qu'il prenne beaucoup plus de recul et qu'il soit mieux entouré et qu'il écoute les gens qui l'entourent.
Donc, la fin du show de Boucan arrive.
Inévitablement. Il était lié un peu par son personnage. Il avait tellement promis que tout changerait, que ce serait l'homme des pauvres, l'homme des déshérités, l'homme des négligés, qu'il fallait qu'il agisse, et il a décidé qu'il faut agir carré, immédiatement occuper tout l'espace. Évidemment, c'est un effet de manche qui ne peut pas durer longtemps.
Eh bien, Valé, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
On se reverra si ça empire.
Oui, il va y avoir des rebondissements en 4 ans. Oui, on peut compter d'autant plus qu'il faut voir comment il va réagir en cas de crise internationale ou américaine.
Qu'il causerait lui-même.
Ouais. Intéressant.
Ou qui serait le témoin simplement.
On s'arrête là-dessus. De l'autre côté, il a toutes les solutions. Il nous a dit qu'il réglait le sort du monde en 10 minutes. Notre collaborateur de la semaine, Jocelyn Danneau, est avec nous.